بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانيا كتاب الصلاة. Donc on est arrivé au deuxième, à la deuxième partie de ce livre qui concerne la salat, la prière. ويشتمل على خمسة عشر بابا, et qui contient 15 sous-chapitres. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. Le premier sous-chapitre, c'est sur la définition de la prière et son mérite et l'obligation des cinq prières. Awwalan ta'rifuha as-salatu lughatan ad-du'a. Donc premièrement, sa définition, as-salat dans la langue arabe signifie l'invocation. Wa shar'an ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsusah muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. Donc dans la religion, bien sûr, c'est cette salat qu'on connaît, c'est-à-dire une série de paroles, une adoration composée de paroles et d'actes bien précis, qui est commencé par le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et qui finit par Assalamu alaikum. وَأَتِي تَفْصِيلُهَا فِي الْأَبْوَابِ التَّالِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. ثَانِيًا فَضْلُهَا. Deuxièmement, le mérite de la prière. الصَّلَاةُ مِنْ أَكَدِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ بَلْ هِيَ عُمُودُ الْإِسْلَامِ. Donc la prière fait partie des principaux piliers après les deux attestations, et c'est le pilier de l'islam, عُمُودُ الْإِسْلَامِ, c'est-à-dire c'est sur quoi repose l'islam. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. Et Allah l'a imposé au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire il l'a rendu obligatoire pendant la nuit de Al-Mi'raj, c'est-à-dire cette nuit où le prophète صلى الله عليه وسلم a été élevé jusqu'au septième ciel. Donc Allah, de par-dessus les sept cieux, a obligé la prière, as-salat. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. Et cela montre l'importance de cette salat dans la vie du musulman. En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que, contrairement aux autres obligations qui ont toutes été transmises de Jibril en tant qu'intermédiaire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que Mohammed est sur terre, la salat, elle a été transmise, c'est-à-dire elle a été imposée, révélée par Allah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au septième ciel, donc directement et sans intermédiaire. Ce qui la distingue en fait des autres adorations. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il était touché par quelque chose, c'est-à-dire une catastrophe ou un malheur ou une tristesse, il se dépêchait de prier, de faire salat. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها. Et il y a beaucoup de hadiths qui ont été cités, qui encouragent et qui montrent le mérite de la salat. Parmi eux, قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Donc le hadith qui est dans Sahih Muslim où il a dit les cinq salats ainsi que la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi et Ramadan jusqu'au Ramadan, tout ça efface ce qu'il y a entre eux tant que les grands péchés ne sont pas commis. C'est-à-dire les prières, elles effacent la prière, elle efface ce qui a été fait depuis l'autre prière. Le ramadan, il efface ce qui a été fait depuis l'autre ramadan. Et le jumu'ah, il efface ce qui a été fait depuis l'autre jumu'ah. Sauf les grands péchés. C'est-à-dire, ça concerne les petits péchés. وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والدرن الوسخ. L'autre hadith aussi, qui est celui-là dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous si l'un d'entre vous se lavait dans un fleuve qui est près de chez lui, il s'y lavait cinq fois, est-ce qu'il resterait de la saleté? Et ils ont dit: non, il ne resterait rien. Et il a dit: eh bien voilà l'exemple des cinq prières par lesquelles Allah efface les fautes. ثالثا وجوبها. Troisièmement, l'obligation de la prière. وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. Donc l'obligation de la prière est quelque chose qui est connu dans le Coran, dans les hadiths et par le consensus des musulmans, et qui est quelque chose, on appelle ça معلوم من الدين بالضرورة, c'est-à-dire les choses qui sont connues de façon évidente de la religion. قال تعالى وأقيموا الصلاة, comme dans le verset dans sourate al-Baqarah, accomplissez la salat. وفي آيات كثيرة من كتاب الله, et d'autres nombreux versets dans le livre d'Allah. وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, et dans sourate Ibrahim, dit à mes serviteurs qui ont cru ou qui ont eu la foi qu'ils accomplissent la salat. ومن السنة حديث المعراج وفيه هي خمس وهي خمسون وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة قال السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع. Et parmi les hadiths, le hadith qui raconte l'ascension du prophète صلى الله عليه وسلم et notamment le morceau où donc il raconte comme quoi Allah lui a imposé et révélé l'obligation de la prière. Et au début, elles étaient 50. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc par miséricorde et, par, et sur, suivant le conseil de Moussa, qu'il a rencontré dans un des sept cieux, il demande à chaque fois à Allah qu'il diminue jusqu'à ce qu'elle soit au nombre de 5. Et Allah a dit, « Hiya khamsun wa hiya khamsuna » Elles sont 5 et elles sont 50. C'est-à-dire, elles sont 5 dans leur nombre, mais elles sont 50. Elles ont le mérite de 50. Et dans les deux sahih, ça c'est dans, notamment dans le Bukhari, et dans les deux sahih, lorsqu'un homme il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des cultes et des obligations d'islam, il lui a dit 5 salats à faire le jour et la nuit. Et il lui a dit, est-ce que il m'est imposé autre que ces 5-là? Il a dit non, sauf si tu veux en rajouter. Tatawwa, c'est-à-dire ça vient de le verbe tatawwa, c'est-à-dire en faire plus. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون. Donc la salat est obligatoire aux musulmans pubères et dotés de raison, et elle n'est pas obligatoire aux non-musulmans ni aux petits ni aux fous, c'est-à-dire celui qui a perdu la raison. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. Conformément au hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la plume a été levée quant à trois personnes, c'est-à-dire leurs actes ne sont plus écrits. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et le petit jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Cependant, il faut ordonner les enfants de la faire quand ils ont l'âge de 7 ans. Sab'a'sinin, en fait, à quoi ça correspond? C'est pas la puberté, mais c'est ce qu'on appelle temiz, c'est-à-dire la distinction. C'est-à-dire avant on ne demande pas à un enfant de faire la salat, si ce n'est qu'il la fasse comme ça pour imiter son père, pour qu'il s'habitue, c'est tout. Mais on ne demande pas à un enfant de moins de 7 ans, puisqu'elle n'est pas acceptée de lui, la salat. Elle est acceptée que lorsqu'il y a ce qu'on appelle tamiz. Tamiz, c'est quand il sait différencier ce qui lui est bénéfique de ce qui lui est mauvais, ce qui est bon de ce qui est mauvais, etc. Et on les corrige s'ils la délaissent quand ils ont l'âge de 7 ans. Donc avant, quand ils ont l'âge de 10 ans. Donc avant l'âge de 10 ans, si on leur dit de la faire, s'ils ne la font pas, mais si ils arrivent à l'âge de 10 ans, là il faut les punir s'ils ne la font pas. فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ وَارْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ رواه مسلم. Et celui qui renie la prière, c'est-à-dire qui renie l'obligation de la prière, ou qui la délaisse, c'est-à-dire qu'il la délaisse et il ne la fait pas, pour quelque raison, celui-là il a mécru et il sort de l'islam, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte qui nous différencie de eux, c'est-à-dire des non-musulmans, est la salat, donc celui qui la délaisse a mécru. Donc là il a cité deux choses qu'il faut bien différencier dans cette question, al-juhud et al-tark. Al-juhud, c'est-à-dire le fait de renier l'obligation de la salat. Ça, celui qui le fait, il n'y a pas de divergence comme quoi il est sorti de l'islam. Et c'est pas seulement pour salat, c'est aussi vrai pour zakat, pour le ramadan, et pour toute chose qui est venue du prophète et dont la personne a eu la preuve. Si elle le renie, elle sort de l'islam. C'est pas seulement la salat. Et ça sans divergence. Là où il y a une divergence, c'est sur at-tark, c'est-à-dire le fait de le délaisser par paresse, par exemple, ou par faiblesse. Donc là, ils ont cité l'avis, qui est l'avis prédominant chez les compagnons du prophète, donc conformément au. À la parole de Abdullah ibn Shaqiq, c'est un tabi'i qui disait ma kanu yarawna 'amalan tarkuhu kufrun illa salat. En parlant des compagnons, il disait, et il n'y a pas une action dont les compagnons voyaient que celui qui la délaisse est mécréant, sauf la salat. C'est-à-dire, il raconte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient que celui qui la délaisse est un mécréant. Et le hadith aussi qu'il a cité ici dans Sahih Muslim. Ensuite il dit al-bab al-thani al-adhan wal-iqama wa fihi masail. Donc là le deuxième sous-chapitre c'est sur l'appel à la prière, al-adhan et al-iqama, le deuxième appel. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. Donc la première question c'est leur définition et leur statut. تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام. الإعلام pardon. الأذان dans la langue arabe c'est ce qu'on appelle الإعلام. الإعلام c'est l'information. Le fait d'annoncer quelque chose. قال تعالى وأذان من الله ورسوله. Comme dans سورة التوبة quand Allah a dit une information إعلام, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali de dire aux gens de Quraysh, quand le prophète est venu conquérir la Mecque, qu'ils avaient 4 mois pour rester à Mecca, après quoi ils devaient partir, sinon ils allaient être tués. Donc Allah il a dit wa adhanun min Allahi wa rasuli, c'est-à-dire voilà comme une information d'Allah et de son messager à ce sujet. Ay i'lam, c'est-à-dire un i'lam. Et dans la religion, c'est le fait d'informer de l'entrée de l'heure de la prière avec des paroles bien précises. Et l'iqama, ça vient du verbe aqama qui veut dire faire dresser quelque chose, faire lever quelque chose, c'est-à-dire faire lever celui qui est assis. وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ وَرَدَ بِهِ الشَّارِعِ. Et dans la religion, c'est le fait d'informer de l'accomplissement même de la prière, à l'instant même de la prière, conformément à des paroles qui ont été citées dans la religion. حكمهما الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها. Donc quant au statut, donc ces deux choses, l'Adhan comme l'Iqama, sont légiférées pour les hommes pendant les 5 prières, c'est-à-dire en ce qui concerne les 5 salats et pas autre que les 5 salats. Les 5 salats quotidiennes. وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين. Et c'est ce qu'on appelle un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire, on pourrait dire. C'est-à-dire, si une partie de la communauté le fait, par exemple dans un quartier il y a une mosquée, si une personne va faire l'obligation de faire l'adhan pour les gens, ça y est, l'obligation a été remplie. C'est pas à chaque musulman de la faire. On appelle ça fard kifaya. لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. Et ça fait partie des règles de l'islam apparentes et des cultes de l'islam apparents. فلا يجوز تعطيلهما. Et il est interdit de ne pas les faire. C'est-à-dire à tel point que un pays musulman qui délaisserait l'adhan, il mériterait d'être combattu jusqu'à ce qu'il applique cette sha'ira, c'est-à-dire cette adoration et ce culte apparent qu'est l'adhan. المسألة الثانية شروط صحتهما. La deuxième question, ce sont les conditions de la validité de l'appel à prière et des deux appels à prière. أولاً الإسلام فلا يصحان من الكافر. Premièrement, que la personne qui le fait soit musulman. ثانياً العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. Deuxièmement, la raison. Donc l'adhan n'est pas valable s'il est fait par quelqu'un qui est fou ou qui est saoul ou qui n'a pas encore atteint l'âge de ce qu'on appelle le tamyiz. C'est-à-dire comme un petit 5 ans par exemple. ثالثاً الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً. Troisièmement, le fait d'être un homme, puisqu'il n'est pas valide d'une femme, puisqu'elle cause une tentation par sa voix, et non plus d'un, comment on appelle ça déjà, le khunfa, celui qui est hermaphrodite, c'est ça? Un hermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui a deux. Il y a à la fois les parties intimes d'un homme et les parties intimes d'une femme. Donc celui-là non plus il n'a pas le droit puisqu'il n'est pas, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il n'est pas 100% homme. En fait, ce qui est voulu ici, c'est que ce soit un homme. Et ça existe. رابعاً أن يكون الأذان في وقت الصلاة. Quatrièmement, bien sûr que l'adhan, l'appel soit fait pendant l'heure de la prière. فلا يصح قبل دخول وقتها. Il n'est pas permis et il n'est pas valide avant que l'heure de la prière n'arrive. غير الأذان الأول للفجر والجمعة. Sauf dans deux cas. Le premier appel à la prière du Fajr, qui se fait pendant la nuit, donc pas pendant, avant que le Fajr n'arrive vraiment, et le premier appel de la prière du Jumu'a, qu'a instauré Uthman ibn Affan. C'est-à-dire ça n'existait pas à l'époque du prophète, c'est Uthman ibn Affan radiallahu anhu qui a fait ça pour une maslaha, parce qu'il a vu que Médine s'était étendue, et donc il a légiféré un premier appel pour que les gens ils se préparent. Donc c'est les deux seuls appels qu'on fait avant l'heure. فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. quant à l'iqama, c'est au moment où on veut se lever pour prier. خامسا أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذا الإقامة وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. Cinquièmement, c'est que l'adhan soit dit dans l'ordre tel qu'il a été cité dans la sunna, que les paroles soient dites dans l'ordre, et متواليا, c'est-à-dire qu'on ne le coupe pas, on le dit d'une traite. Quand on dit d'une traite, bien sûr, vous savez comment on fait l'adhan. On peut laisser des silences, mais c'est pas, par exemple, on fait l'adhan et seulement 5 minutes après, on reprend la deuxième moitié. سادسا أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة. Sixièmement, c'est qu'il soit fait dans la langue arabe et avec les mots qui ont été cités dans les hadiths. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن. La troisième question, ce sont quelles sont les caractéristiques qui sont préférables chez celui qui va faire l'adhan. Donc ce qui est voulu chez celui qui va faire l'adhan, المؤذن. أولا أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. La première chose, c'est qu'il soit عدل. عدل, c'est-à-dire que ce soit une personne de confiance et de piété. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de pieux et à qui on peut faire confiance, puisque on revient à lui quant à la connaissance de l'heure de la prière. Et aussi du jeûne, de la rupture du jeûne et du commencement du jeûne. Donc forcément, il faut que ce soit quelqu'un de confiance et pieux, parce que s'il n'est pas comme tel, on ne peut pas lui faire confiance. Peut-être il va faire l'adhan avant l'heure, etc. Ou alors en ce qui concerne le jeûne. ثانياً أن يكون بالغاً عاقلاً ويصح أذان الصبي المميز. Deuxièmement, qu'il soit pubère et doté de raison, même si l'adhan, l'appel à prière fait par un petit qui a atteint l'âge de la distinction at-tamiz, c'est-à-dire à peu près 7 ans, il est valable. ثالثاً أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها لأنه إن لم يكن عالماً ربما غلط أو أخطأ. Troisièmement, c'est qu'il soit au courant, c'est عالماً, qu'il sache les heures des prières pour qu'il dise la prière au début des heures de prière. Puisque s'il ne connaît pas les heures de prière, peut-être il va faire l'adhan. Quand il ne faut pas, il va se tromper. رابعا أن يكون صيتا ليسمع الناس. La quatrième chose, c'est qu'il est une voix forte pour que les gens l'entendent. خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. Cinquièmement, donc il est préférable qu'il soit purifié des deux hadaths, de la pureté majeure et mineure, c'est-à-dire qu'il ait les ablutions et qu'il ne soit pas en état de janaba. سادسا أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. Qu'il fasse l'adhan debout face à la qibla. سابعا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. Septièmement, qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles et qu'il tourne son visage, donc c'est seulement le visage qui doit tourner quand il dit حي على الصلاة et حي على الفلاح. Donc ici ils disent à droite quand tu dis حي على الصلاة et à gauche quand tu dis حي على الفلاح. Et si on revient au hadith, notamment le hadith où un sahabi raconte qu'il a vu Bilal faire ça. En fait, il y a des ulama, ils disent, ça pour que vous le sachiez, si vous voyez quelqu'un qui fait ça, c'est pas une erreur. Il y a des ulama, ils disent, ce qu'on comprend du hadith, c'est que quand il dit « Hayya ala salat », il tourne sa tête à droite, et quand il dit « Hayya ala falah », il tourne sa tête à gauche. Et d'autres, ils disent non, il tourne sa tête à droite, et il dit « Hayya ala salat », et le deuxième « Hayya ala salat », il tourne sa tête à gauche. Après, il dit « Hayya ala falah » à droite, et « Hayya ala falah » à gauche. Pour que chaque parole elle soit dite de chaque côté. D'autres ulama disent ça. Parce que dans le hadith, la façon dont c'est dit, ça laisse supposer les deux. On peut comprendre les deux dedans. Puisqu'il a dit, j'ai vu Bilal, dans le hadith qui est notamment dans le sunan d'Abi Daoud, j'ai vu Bilal, et après il dit, Hayya ala salat, Hayya al-falah, à la droite et à la gauche. Donc, ça laisse sous-entendre. Est-ce qu'il dit les deux à droite et à gauche, ou est-ce qu'il dit Hayya ala salat à droite, Hayya ala salat à gauche? Donc celui qui fait ça ou ça, il a pas commis d'erreur. Deux. Ouais, celui-là et celui-là, ça fait deux. L'index de sa main droite et l'index de sa main gauche. ثامنا أن يترسل في الأذان أي يتمهل ويحضر الإقامة أي يسرع فيها. Huitièmement, c'est qu'il soit long quand il fait l'adhan, c'est-à-dire les paroles de l'adhan, il les rallonge. Quant à l'iqama, il le fait vite. المسألة الرابعة Donc tout ça, bien sûr, il y a des hadiths, et je pense qu'ils vont les citer après, en fait. Al-mas'alatu al-rabi'a fi sifati al-adhan wal-iqama. Donc, quatrièmement, comment on fait l'adhan et l'iqama. Kayfiyatu al-adhan wal-iqama, wa lahuma kayfiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyyah, wa minha ma ja'a fi hadith Abi Mahdhura, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'allamahu al-adhana bi nafsihi fa qala: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc le premier, donc il y a différentes façons qui ont été citées dans la sunna. C'est-à-dire si on prend tous les hadiths authentiques, il y a des petites divergences. En fait, c'est pas des divergences, c'est différentes façons qui sont permises. Donc, le premier, c'est dans le hadith de Abu Mahdhura, qui était un jeune compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'adhan lui-même. Et il lui a dit, donc, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ça, tu le dis, c'est-à-dire Allahu Akbar, tu le dis quatre fois au début. Donc, avant que je vous dise le hadith, il est dans, les Sunan d'Abi Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc il dit, au début il dit Allahu Akbar quatre fois. Et quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire on dit pas Allah. Donc il faut Allah c'est mufakham. On ne peut pas dire Allah. Il faut dire Allah. Allah c'est une erreur. Donc le lam, la lettre lam, équivalent du L en français, quand c'est dans le mot Allah spécialement et dans aucun autre mot, on doit le gonfler. C'est-à-dire on dit pas Allah, on dit Allah. Ça, ils disent, les Arabes, ils ont prononcé Allah comme ça pour glorifier Allah, en fait. Aussi, on ne dit pas, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens y font, ils disent Allahu Akbar. Si tu dis ça, Akbar, ça veut dire des tambours. Alors que Akbar, normalement, ça veut dire plus grand. Et si tu dis Akbar, ça veut dire tu rajoutes un alif, tu as rajouté une lettre dans le mot, ça change, ça veut dire des tambours. Donc tu es en train de dire du kufr. Au lieu de glorifier Allah, tu dis du kufr. Donc tu dois dire Allahu Akbar. C'est-à-dire Allah est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand justement. Plus grand que tout. C'est pour ça qu'il n'a rien cité après. Donc quatre fois Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Donc je témoigne qu'il n'y ait de vrai Dieu ou de vraie de divinité digne d'être adoré qu'Allah. Donc là, je vois pas d'erreur spécialement que les gens y font d'habitude. Justement, on prolonge pas. Tu ne dois pas dire Allahu Akbar. Ça, c'est une faute. Si, bien sûr. Parce que le mot Allah, dedans, il y a ce qu'on appelle Ahmed. Donc tu dis Allahu Akbar. Tu prolonges le Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar quatre fois. Ashhadu an la ilaha illallah deux fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Deux fois. Ouais, ashhadu, donc là ça fait. C'est comme si tu dis est-ce que je témoigne? Donc tu changes aussi le sens. Aussi, ashhadu anna Muhammadan, et non pas Muhammadun. Il y a aussi une autre erreur, ouais, c'est ça, c'est que les gens ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça c'est faux. On dit Allahu Akbaru, ça finit par ou. Akbaru. Donc le mot Allah, tu le relis tout de suite, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous voyez à la fin de Akbar, c'est pas un A, c'est un O. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que le alif qui est au début du mot Allah, ça c'est un alif avec ce qu'on appelle au-dessus une hamzatul wasl, la hamza qu'on dessine comme ça. Quand il est en milieu de phrase, il se prononce pas. Donc on le relit, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. On dit pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est la première chose. Après, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan, donc avec le an, pas le un. On dit pas ashhadu anna muhammadun rasulullah. Et on dit rasulu, pas rasula. C'est par rapport à la grammaire. Muhammadan, parce qu'il y a anna. Donc anna muhammadan rasulu, rasulullah. Ashhadu anna muhammadan rasulullah, donc ça on le dit deux fois. Hayya ala salah. Donc on dit pas hayya, ça c'est beaucoup les gens qui font ça. Ils disent hayya ala salah, ça c'est faux. On dit hayya tout simplement, il n'y a pas d'alif à la fin. On ne prononce pas hayya, ça c'est pas ça. C'est juste hayya, c'est tout. Hayya, ça veut dire on insiste sur le ya. Hayya ala salah. Ou alors d'autres, ils font aussi l'erreur, ils disent Ala Salah. Et ça aussi, c'est faux. Parce que Ala, si tu le dis tout seul, c'est vrai, il y a Alif, tu prolonges. Le mot Ala, il se dit Ala. Mais après, comme il y a As-Salah avec une shidda sur le sad, tu peux pas. Tu dis directement Ala Salah. Et on ne dit pas As-Salah. Parce que le mot Salat, il finit par un ta marbouta, le ta rond qu'on met avec deux points. Celui-là, quand tu t'arrêtes dessus, tu dois le prononcer ha. Ça veut dire si tu le relis, tu le prononces ta. Par exemple, tu dis As-salatu khayrun minan nawm. Mais si ta phrase elle finit par le mot salah, alors tu dis pas salat et tu fais te avec non. Tu dis ha. Tu fais as-salah. D'accord? C'est comme si il se transforme en ha, on va dire. Et on dit pas salah. Il y en a, ils confondent le ha et le ha. Alors ils disent hayya ala salah. Et salah, ça veut dire le bien, la vertu. Donc tu dis venez à la vertu. Alors que c'est venez à la salat, à la prière. Donc hayya ala salah, ça veut dire empressez-vous à la salat, ça veut dire. Donc deux fois. Hayya ala al falah. Empressez-vous à la réussite. Hayya ala al falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Donc ça c'est dans le hadith de Abu Mahdoura. Après il dit wa amma sifatu al-iqama fahiya. Et quant à l'iqama, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Et là, si tu veux relier les deux phrases, tu dois dire Hayya ala salati, Hayya ala al-falah. Parce que des fois, il y en a, ils ne s'arrêtent pas. Ils disent les deux phrases en même temps. Donc pour être correct dans ta parole, soit tu dis Hayya ala salah, tu t'arrêtes, Hayya ala al-falah. Ou alors tu dis Hayya ala salati, Hayya ala al-falah, avec ti au bout de salat. Parce qu'il y a une préposition avant. Donc le mot il doit finir par i. Hayya ala salati, Hayya ala al-falah. Qad qamati salatu, qad qamati salah. Et c'est pas la peine de se forcer. Il y en a beaucoup, ils font ça. Ils disent qad, c'est-à-dire, ils font une qalqala, comme on fait dans le Coran. Qad. Et puis il faut bien qad qamati. C'est pas la peine de te forcer. Tu dis qad qamati salat et c'est tout. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Donc si tu veux relier les deux phrases, là tu dis salat tout, pas salati. Parce que salat ici il est sujet. Donc il finit par tout. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Avec le ha au bout. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ça c'est l'iqama. Les hadiths Anas radiallahu anhu قال. Donc conformément au hadith de Anas, pour l'iqama, il dit Amara bilalun an yashfa' al-adhan. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. Regardez ici, il dit, Anas il dit, ça c'est dans les deux sahih, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Bilal, donc c'est Amara Bilalan, j'ai pas ici, ils ont mis Amara Bilalun, moi ce que je connais c'est Amara Bilalan, c'est-à-dire le prophète a ordonné Bilal de dire l'Adhan en pair, par deux, et de dire l'Iqama en impair, sauf l'Iqama. Il a dit de dire l'iqama impair sauf l'iqama. Ça veut dire quoi sauf l'iqama? Si je te dis l'iqama en impair sauf l'iqama. En fait, c'est quand vous regardez dans l'iqama, il y a un truc qu'on dit deux fois. C'est quoi? C'est qad qamati salat, qad qamati salat. Donc quand il dit sauf l'iqama, ce qu'il veut dire par l'iqama, c'est-à-dire la phrase qad qamati salat, il l'a appelé iqama. Donc il veut dire dis les phrases de l'iqama en impair sauf قد قامت الصلاة. Ça tu le dis quand même deux fois. Il dit فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين. Donc les phrases de l'appel, le grand appel sont deux par deux. وكلمات الإقامة مرة مرة. Et celles de l'Iqama sont une par une. إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الماضي. Sauf la phrase قد قامت الصلاة. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة. لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Il dit voici la caractéristique de l'adhan et de l'iqama qui est préférable parce que c'est celui que Bilal faisait. Donc Bilal c'est un des premiers grands compagnons, un des premiers hommes à s'être converti à l'islam, qui était d'origine éthiopienne, radiallahu anhu, et c'est celui, donc c'est lui qui était un des mu'adhinin, c'est-à-dire des muezzins comme ils disent en français, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le faisait qu'il soit à Médine ou qu'il soit en voyage, il faisait l'adhan de cette façon-là jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. Il dit, donc là c'est pour ça que je vous disais au début, il y a plusieurs façons. Il dit ici, il fait ce qu'on appelle at-tarji' dans l'adhan, alors il n'y a pas de mal. C'est aussi une sunna. Donc il y a deux sunna. Tu fais l'adhan comme on a dit, et il y a une autre façon. La façon c'est que tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est le, quand tu fais l'adhan, donc à grande voix. Après, à voix basse, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À voix basse, il n'y a que toi qui t'entends ou les gens qui sont à côté. Et après, tu le dis normalement, comme celui qui fait l'adhan. Ça, on appelle ça at-tarji'. C'est une sunna. Celle-là, c'est dans le hadith. Alors, je crois qu'il le cite ici. Ça, c'est dans les sunnans d'Abi Daoud. C'est un autre compagnon qui avait rêvé de l'adhan. C'est-à-dire, parce qu'au début, en fait, l'histoire de l'adhan, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas mis ici. C'est que les gens, ils se demandaient donc comment on pourrait appeler à la prière. Certains, ils ont proposé, on prend des cloches, comme les chrétiens. D'autres, ils ont dit, on prend une trompe, comme les juifs. Et un des compagnons, il a rêvé, en rêve, il a vu quelqu'un qui lui a dit, c'est-à-dire, il lui a enseigné l'adhan. C'est-à-dire, il y a une petite histoire dans le rêve, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il lui a enseigné l'adhan. Et en fait, et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a raconté, il a dit innaha la ru'ya haqq. Il a dit voilà une vision véridique. Donc il a légiféré cet adhan qui était vu par un compagnon dans le rêve. En fait, il y a deux compagnons différents qui l'ont vu. Un compagnon et un autre. En l'occurrence, Omar ibn al-Khattab. Ou alors il dit aw thanna al-iqama fala ba's. Ou alors, s'il fait l'iqama en paire. C'est-à-dire, il vient, il fait l'iqama, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Qad qamati salat, Qad qamati salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il fait comme l'adhan, sauf il rajoute Qad qamati salat, ça existe aussi dans la sunna. Mais c'est plus rare, c'est-à-dire, tu le fais pas toujours. Il dit ça fait partie de divergence licite. En vérité, c'est pas dans divergence dans le sens où il y a un des avis qui est véridique. C'est une divergence dans le sens tout ça est authentique, a été cité dans la sunna. Wa yustahabu an yaqula fi adhan as-subh ba'da hayya 'ala al-falah as-salatu khayrun min an-nawm marratayn lima rawa Abu Mahdhura anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lah in kana fi adhan as-subh qult as-salatu khayrun min an-nawm. Et aussi, quand il est à l'appel à la prière du Fajr, il dit, après la phrase Hayya ala al-falah, c'est-à-dire venez au succès, il dit As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Il le dit deux fois, conformément au hadith de Abu Mahdhura, donc le jeune de la Mecque à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné l'adhan. Il lui a dit, si c'est l'adhan du Fajr, alors dit, la prière est meilleure que le sommeil. Ça c'est dans les sunan de Nasa'i, ce rajout. Et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc voilà en tout cas les façons de faire l'adhan. Al-mas'alatu al-khamisa ma yaqulu sami'u al-adhan wa ma yad'u bihi ba'da. La cinquième question, qu'est-ce qui dit celui qui entend l'adhan et quel du'a il doit faire? Yustahabbu liman sami'a al-adhana an yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin li hadith Abi Sa'id anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Conformément, donc ils disent, il est préférable pour celui qui entend l'adhan de répéter ce que dit celui qui dit l'adhan, conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'appel, répétez comme dit le mu'adhdhin, celui qui fait l'appel. Ça c'est dans les deux sahih. Illa fil hayy alatayn fayushra'u li sami'i al-adhan an yaqul la hawla wa la quwwata illa billah aqiba qawli al-mu'adhdhin hayy 'ala as-salati wa kadha aqiba qawli hayy 'ala al-falah. Les hadiths d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, fi dhalik. Sauf dans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les deux, hayya ala, on appelle ça hayya ala tayn, c'est-à-dire la parole hayya ala salat et hayya ala al-falah. Là, toi, tu dis pas ça, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, comme ça a été cité texto par Omar ibn al-Khattab dans son hadith. Son hadith, il est dans le sahih de Muslim. C'est un peu c'est-à-dire le même hadith que celui d'Otsoui dit, comme quoi il faut répéter. Et ce hadith, il a été aussi rapporté, c'est-à-dire le sens du hadith, par Muawiya ibn Abi Sufyan, où ses compagnons ils disent qu'ils ont entendu quelqu'un faisait l'adhan et Muawiya il répétait. Et après il leur a dit que c'était une sunna, il leur a enseigné ce hadith. De quoi? Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alors ça, il faudrait que je ressorte l'explication. Al hawl et le quwwa, c'est-à-dire là, comme ça, je ne saurais pas faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, il faudrait que je relise le char. C'est la force, en fait. Ouais, mais bon. Dis-moi la différence entre la puissance et la force. En fait, ils disent, en fait, ça veut dire il n'y a de force. La hawla, il n'y a pas de hawl. Et la hawl, c'est la force. Ni de quwwa. Et le quwwa aussi, c'est la force. Mais il y a une nuance, il y a une différence entre les deux. Donc dans les shuruh, il vous explique la différence. Mais là, comme ça, je m'en souviens plus. Donc il dit, c'est comme si tu dis, il n'y a de force que par Allah. Les ulama, ils disent, pourquoi il nous a été légiféré de dire ça à ce moment-là? C'est parce que comme le mu'adhdin, il t'appelle et il te dit, viens au succès. Eh bien, toi, tu dis, il n'y a de force que par Allah. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, asta'inu billah ala hadhil ibada. Je demande l'aide d'Allah pour faire cette adoration. Et je ne peux la faire que si Allah m'y aide. Donc c'est à la fois une confiance en Allah, une demande d'aide à Allah, et une reconnaissance comme quoi la force et la guidée, elle n'appartient qu'à Allah. Et ça, ça correspond à la morale qui est tirée de beaucoup de versets du Coran. Où dans beaucoup de versets, Allah il nous dit de l'adorer et de lui faire confiance. C'est-à-dire, il cite en même temps l'adoration et le tawakkul. Comme dans la plus grande des sourates, où on dit « Iyaka na'budu » Nous t'adorons et nous demandons ton aide. Ou alors par exemple fa'abudu wa tawakkal alayh. Dans un autre verset, adore-le et aie confiance en lui. C'est-à-dire que l'adoration elle est toujours accompagnée de isti'ana et de tawakkul. Du fait de demander à Allah l'aide et d'avoir confiance en lui. Donc ça exprime ça quand on dit ça. Dans... Wa alaykum salam wa rahmatullah. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة. Il dit المؤذن, quand il dit dans la prière du Fajr الصلاة خير من النوم, eh ben toi tu dis comme il a dit, conformément au hadith. Il n'y a pas une parole spécifique à dire. Tu répètes الصلاة خير من النوم. La prière est meilleure que le sommeil. Et il ne faut pas faire ça lors de l'Iqama. Certains ulama ils disent, parce que dans certains hadiths, l'iqama, le deuxième appel, il est cité comme adhan. Donc ils disent, ben, de façon générale, c'est-à-dire le hadith, il est général. Il dit après l'adhan, donc ça contient aussi bien le grand adhan que le deuxième. Mais d'autres, ils disent non. Parce que quand on dit l'adhan, ils disent en arabe, alladhi yansarifu ila dhihn huwa al-adhan al-awwal. C'est-à-dire quand on dit l'adhan, le al ici, c'est l'ilahat, c'est-à-dire il te... Tu en comprends automatiquement, là, généralement, quand on te dit l'adhan, c'est le premier appel à la prière. Et le deuxième, c'est l'iqama. Donc le hadith, il parle bien du premier appel. Et en plus aussi parce que c'est pratiquement impossible de répéter après celui qui fait l'iqama, parce qu'il va vite. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ensuite il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il dit la prière salat al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad, etc. Et après il dit cette dua, il dit: oh Allah, toi qui es le seigneur de cet appel parfait qui est l'adhan et de la prière al-qa'ima, c'est-à-dire la prière qui va être dressée, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila, donne à Muhammad al-wasila wal-fadila. Al-wasila, comme ça je ne peux pas le traduire, et al-fadila, c'est-à-dire quelque chose de méritoire, un mérite spécifique, une grâce. Et ressuscite-le à l'endroit loué que tu lui as promis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait donc de dire cette dua, et il disait al-maqam al-mahmoud, l'endroit loué, c'est un mérite que seule une seule des créatures d'Allah va avoir, et j'espère que je suis celui-ci. Et d'autres hadiths, ils montrent ce que c'est le maqam al-mahmoud, c'est l'intercession, al-shafa' al-uzma, la grande intercession qui sera pour toute l'humanité au jour du jugement. C'est la première intercession qui a lieu au jour du jugement. C'est quand les gens ils sont tous, ils baignent dans leur sueur, et le soleil il est rapproché d'eux, et ils souffrent, et là ils cherchent quelqu'un pour demander à Allah de les juger. Ils veulent être jugés pour sortir de cette situation. Donc ils demandent à Adam, Et Adam il refuse, il demande à Nuh, il demande à Moussa, il demande à Ibrahim, à Moussa, à Isa, et jusqu'à ce que Isa il leur dise de demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah va accorder cet honneur de demander, d'intercéder, c'est-à-dire il va demander à Allah de juger les gens et de sauver sa communauté. On appelle ça shafa'a, c'est ça le maqam al-mahmoud. Donc ce hadith, cette dua, c'est cité dans Sahih al-Bukhari. Ils disent ici وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Parmi les mérites qui ont été cités dans le hadith même quant à cette dua, c'est que celui qui l'a dit après l'adhan, il méritera l'intercession du prophète justement صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ au jour du jugement. الْبَابُ الثَّالِثِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. Le troisième sous-chapitre, c'est les heures de la prière. Donc là, il faut être attentif parce qu'il y a beaucoup de choses que généralement les gens ne connaissent pas. Il dit الصلوات المفروضات الخمس في اليوم والليلة. Pardon, الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. Donc les cinq prières du jour et de la nuit ont des heures précises qui ont été délimitées dans la religion. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc ça c'est la base dans le Coran, c'est qu'Allah dit certes la salat est aux croyants une prescription à des heures déterminées, mawqut. Ya'ni mafroudan fi awqatin muhaddada. C'est-à-dire, par rapport au verset, que c'est une obligation à des heures précises et délimitées. Fala tujzi'u salatu qabla dukhuli waqtiha. Donc la prière n'est pas valable avant que l'heure ne rentre. Et ça, c'est par consensus des ulama. Donc il ne faut pas écouter des gens, ils cherchent à vous donner des rukhsa, et ils te disent, par exemple, tu lui dis. Le dhuhr il est à 13h15, je commence le travail à 13h, je peux pas prier à 13h-5. Il te dit oh, vas-y pour 5 minutes. Des fois il y a beaucoup des vieux hajj et tout, ils disent ça à leur fils. Ils disent oh, vas-y pour 5 minutes, c'est pareil, prie avant, comme ça tu pries à la maison, après tu vas au boulot. Alors qu'il va au boulot et c'est seulement après que l'heure elle arrive. Donc sa salat elle passe pas. Par consensus, ça c'est pas quelque chose de, selon lequel il y a une divergence. Ouais, il faut savoir ici, ils ont dit avant, mais elle passe pas non plus après. Ça veut dire celui, par exemple, délibérément, ça c'est ce qui est courant chez les gens, et il fait sa prière après le temps prévu, par consensus des ulama aussi, sa prière elle passe pas. Sauf s'il a une excuse. C'est-à-dire, il s'est endormi sans faire exprès, il avait pas mis son réveil, par exemple, il est tombé en panne. Ou alors, il a éteint son réveil, il s'est rendormi tout de suite. C'est-à-dire, il était inconscient. C'est-à-dire une excuse de sommeil, ou alors il est tombé dans les pommes, ou etc. Ou alors une excuse qui lui permet de regrouper ses prières, comme la maladie ou le voyage, par exemple. Sinon, sa prière après son temps, elle n'est pas valable. Et ça, les gens, ils le font beaucoup dans deux cas. Ils le font avec Salat al-Fajr, qui travaille ou qui travaille pas, c'est-à-dire la prière du Fajr, ils la font après son heure, et ils croient, beaucoup de gens y croient. C'est-à-dire ils le font même pas exprès. Ils pensent que l'heure de la prière du Fajr, c'est quand tu te réveilles le matin. Et combien on envoie des jeunes au lycée, ou enfin je veux dire des jeunes, sur ça c'est beaucoup chez les jeunes, ben ils croient, ben voilà, il se lève, il est 9h30, ben il fait son Fajr, il est content, il se dit ben je fais mes 5 prières par jour. Alors que vis-à-vis de la religion, il n'a pas fait sa prière. Sa prière n'est pas valable, sans aucune divergence. Et même ils disent certains ulama que s'il fait exprès de prier après le lever du soleil, eh ben c'est un mécréant, il sort de l'islam, parce qu'il a raté une prière hors dehors de son heure. Il est considéré comme Tariqus Salah, comme la prière, c'est une fatwa connue de Cheikh Ibn Baz, où des jeunes, ils lui ont demandé, ils ont dit, ils disent, voilà, par exemple, nous, je mets mon réveil après le lever du soleil, sachant que le lever du soleil, c'est la limite de la prière du Fajr. Et lui, il faisait exprès de mettre son réveil après, parce qu'il y a l'école, il veut pas être fatigué, tout ça. Cheikh, il a dit, bah, t'es pas musulman. Ça c'était la fatwa de Shir, parce que Shir, bien sûr, il est de l'avis de que celui qui délaisse la salat, il n'est pas musulman. Donc ça c'est quelque chose de dangereux. Le deuxième cas dans lequel ils font, c'est par rapport à leur travail ou l'école. C'est-à-dire les gens, ils vont au travail par exemple, ils finissent à 5h, le Maghreb est à 16h30, ils rentrent chez lui, ils enchaînent Dhuhr et Asr. Des fois ils enchaînent Fajr, Dhuhr et Asr. Et ben, dans ce cas-là, le Fajr, le Dhuhr et l'Asr qu'il fait, il ne compte pas. Ce qui va compter, c'est son maghreb qui est dans le temps et l'aïcha, c'est tout. Donc il est considéré comme ayant fait 2 prières. Donc ça, les gens, ils le savent pas. Et ça, en plus, ça sert à rien qu'il prie. C'est-à-dire, autant qu'ils prient même pas, la prière n'est pas acceptée, ni avant ni après l'heure de la prière. Et ça, la plupart des gens, ils le font, et à cause ils ont pas d'excuses, puisque de toute façon, il n'y a aucune excuse pour ça, sauf l'excuse que c'était en incapacité, c'est-à-dire comme par exemple, tu es tombé dans les pommes ou tu t'es endormi. Ça, c'est une excuse, parce que tu es inconscient, et comme tu es inconscient, il n'y a pas d'obligation sur toi. Mais tu es là, tu es au travail ou tu es à l'école, eh ben, il n'y a pas d'excuse. Après, comment on fait, etc. Oui, mais je vais me faire renvoyer, je vais avoir des problèmes. Ça, c'est pas. Moi, je vous dis ce que la religion va te dire. Après, chacun, c'est-à-dire, il fait ce qu'il veut et il se dirige vers les ulama pour savoir comment il fait. Donc, il dit.
وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر.
Donc là, je vais traduire petit à petit. Ils disent la base dans ces heures de prière, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. Ça, c'est dans Sahih Muslim où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'heure de al-dhuhr est Ivazalatisham, c'est-à-dire quand le soleil penche. Ça, il faut comprendre. Il y en a beaucoup, ils pensent que le dhor, c'est au zénith. Et justement, le zénith, c'est pas. Le zénith, on n'a pas le droit de prier. C'est une heure où il est interdit de prier. Si on regarde les hadiths, il y a trois heures où c'est interdit de prier. Du fajr jusqu'au lever du soleil. Non, il y a cinq heures en fait. Du fajr jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil jusqu'à ce que le soleil soit un petit peu élevé, c'est-à-dire à peu près 20 minutes après. Et au zénith, إذا قام قائمة الظهر, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith, il est arrivé, il est ni à l'est ni à l'ouest, c'est ce qu'on appelle le zénith. Si par exemple on est à l'équateur, il n'y a pas d'ombre, ou alors l'ombre elle est très faible. Donc ça c'est le zénith, ça c'est, il est interdit de faire des prières surérogatoires à ce moment-là. Et quand le soleil penche, il commence à pencher et l'ombre apparaît de l'autre côté. Donc le soleil il se lève, parce qu'à chaque fois je me trompe, il se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc il se lève à l'est, il arrive au zénith. Quand il va commencer à pencher, il va pencher vers l'ouest. Donc l'ombre elle va apparaître à l'est. Donc quand l'ombre, par exemple si tu mets un bâton, au zénith on va dire il n'y a pas d'ombre. Si on est dans un endroit où par exemple comme l'équateur, hop, le soleil il penche à l'ouest, l'ombre elle apparaît directement à l'est. Là c'est la prière du dhuhr. On appelle ça az-zawal. Az-Zawal, c'est-à-dire le moment où le soleil penche. C'est à peu près un quart d'heure après le zénith. Donc bien différencier entre le Zawal et le zénith. Le zénith, on n'a pas le droit de prier. Et à peu près un quart d'heure après le zénith, c'est le Zawal. C'est l'heure de Al-Dhuhr. Donc quand, comme je vous dis, quand le soleil est en haut, et pendant un moment, celui qui observe le soleil, il a l'impression qu'il est stable, il ne bouge plus. Et après, hop, il se remet clairement à bouger vers l'ouest. Et son ombre, elle réapparaît et elle commence à s'étendre à l'est. Là, ça y est, c'est la prière de Az-Zawal. Donc, il dit quand le soleil penche et que l'ombre de l'homme est égale à sa taille tant que l'Asr n'arrive pas. En fait, c'est ça l'Asr. C'est-à-dire l'Asr, c'est quand l'ombre de la personne, elle est égale à sa taille. Donc par exemple, tu mets un bâton de 2 mètres et tu t'attends que l'ombre elle arrive à 2 mètres. Quand l'ombre elle fait 2 mètres équivalent au bâton, donc, eh ben ça c'est l'asr. Donc il dit la prière du dhuhr, c'est quand le soleil penche jusqu'à ce que l'ombre de l'homme soit équivalente à sa taille. Et là c'est l'asr. Quand ça arrive, c'est l'asr. Après il dit wa waqtul asri ma lam tasfar ash-shams. Et l'heure du asr est tant que le soleil ne jaunit pas. Donc c'est-à-dire le début, sous-entendu, le début c'est quand l'ombre de la personne est égale à sa taille. Et la fin de l'asr, c'est quand le soleil il commence à pâlir. Donc c'est pas le maghrib. C'est quand le soleil commence à pâlir, c'est-à-dire tu vois clairement la différence. Le soleil, tu peux commencer à le regarder comme ça, ça va pas te faire mal. Il commence à être pâle, la chaleur elle commence à s'enlever un peu et tous ses effets. C'est-à-dire tasfar ush-shams, le soleil jaunit. Là, c'est la fin de l'asr. En vérité, c'est pas la fin totale. On va voir après. Ça veut dire que c'est la fin du temps où t'es waqt takhir. C'est-à-dire le temps où, entre guillemets, t'es à l'aise pour prier. Après ça, entre le temps où le soleil jaunit et le maghrib, le coucher du soleil, ça c'est le temps, on appelle ça waqt ad-darura. C'est-à-dire tu as le droit de prier l'asr dans ce temps-là si tu es contraint.
Et après le Maghreb, bah là c'est plus l'heure du Asr. Donc le Asr il a deux temps. Ça on le verra après. En tout cas ici dans le hadith ils disent jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghribi ash-shafaq. Et l'heure de la prière du Maghreb, c'est-à-dire du coucher du soleil, est tant que ash-shafaq ne disparaisse pas. Ash-shafaq, il vous explique ce que ça veut dire après. En fait, c'est le trait rouge qu'il y a à l'horizon. Wa waqtu salati al-isha ila nisf al-layl al-awsat. Et l'heure de la prière de l'isha est jusqu'à la moitié de la nuit. Wa waqtu salati as-subhi min tulu' al-fajri ma lam tatlu' ash-shams. Et l'heure de la prière du subh est au lever du fajr, jusqu'à ce que se lève le soleil. Le fajr, c'est-à-dire la lueur blanche qui est dans le ciel. Quand elle commence à apparaître, là c'est al-fajr. Et al-fajr, c'est une lueur blanche donc qui s'étend d'est en ouest, comme ça. Fasalat al-dhuhri, donc là ils vont expliquer. Fasalat al-dhuhri yabda'u waqtuha bizawali shams. Ay mayluha an kabadi as-sama' ila jihati al-maghrib. Donc ils disent donc la prière du dhuhr commence quand le soleil penche, c'est-à-dire il penche du milieu du ciel vers l'ouest. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu fi at-tul. Et son temps va jusqu'à ce que l'ombre d'une chose soit équivalent à la chose elle-même dans sa taille. ويستحب تعجيلها في أول وقتها. Et il est préférable de prier la prière du dhuhr au début de son temps. إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Sauf dans un cas, c'est quand la chaleur est trop intense. Quand la chaleur est trop intense, la sunna c'est pas de prier au début, mais de reculer le dhuhr jusqu'à ce que le temps y se radoucisse un petit peu et que ce soit facile pour les gens de sortir, c'est-à-dire que ce soit supportable. Conformément au hadith qui dit lorsque la chaleur s'intensifie, abridou, c'est-à-dire repousser la salat jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. Abridou bis salat, repousser la prière jusqu'à ce qu'il fasse moins chaud, car la chaleur intense vient de l'enfer. Ça c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari. Wa salatul asri yabda'u waqtuha min nihayati waqti adh-dhuhri, ay min sayrurati dhilli kulli shay'in mithlahu wa yantahi bi ghurubi ash-shams, ay 'inda akhir al-isfirar, wa yasunnu ta'jiluha fi awwal al-waqt, wa hiya as-salatu al-wusta allati nassa Allahu 'alayha fi qawlihi ta'ala hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Et la prière du Asr donc commence à la fin de la prière du Dhuhr, c'est-à-dire quand l'ombre d'une chose est de la même taille que la chose elle-même, et se finit par le coucher du soleil, c'est-à-dire à la fin du temps du jaunissement du soleil. Et il est préférable de la sunna d'avancer l'Asr. Donc tout ça ici, il cite comme ça, mais il y a des preuves, c'est-à-dire si vous retournez par exemple, après le cours, ce que vous faites, vous prenez Boulour al-Maram par exemple. Et le cours qu'on a fait, par exemple aujourd'hui on a fait l'Adhan, l'Iqama et les heures des prières, vous lisez ça dans Boulour al-Maram. Comme ça vous verrez toutes les preuves, parce qu'ici il cite des preuves, alhamdoulilah, mais des fois pas tout. Par exemple pour le fait qu'il faut prier l'Asr tôt, il y a des preuves. Donc il est préférable de la faire au début de son temps. Et c'est ça la Salat al-Wusta, qu'Allah a cité dans le Coran en disant dans Salat al-Baqarah, Hafidhu ala salawat, c'est-à-dire soyez assidus et préservez vos salats, ainsi que as-salat al-wusta. Donc as-salat al-wusta ici, ce qui est voulu, c'est la prière du Asr. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil muhafazati 'alayha fa qala man fatatuhu salatu al-'asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu wa qala aydan man taraka salat al-'asr fa qad habita 'amaluhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait d'être assidu spécialement à la prière du Asr. Et il a dit, celui qui délaisse la prière du Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Et dans l'autre hadith, celui qui délaisse la prière du Asr, ses actions sont annulées. Dans Sahih al-Bukhari. Wa waqtu salati al-maghribi min ghurubi ash-shamsi ila maghribi ash-shafaqi al-ahmar. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Et la prière du Maghreb donc c'est au coucher du soleil jusqu'à la disparition de ce qu'on appelle al-shafaq al-ahmar. Donc ici dans la marge il dit al-humra allati takunu min ghurub al-shamsi ila waqt al-isha al-akhira wa tura hadhihi al-humra ba'd suqut al-shams. Donc al-shafaq al-ahmar, c'est cette lueur rouge qu'on voit après que le soleil soit définitivement couché. Il y a une lumière, une lueur rouge qu'on voit toujours vers l'occident, c'est-à-dire vers l'endroit où le soleil s'est couché. À l'horizon, il y a toujours une lumière rouge. L'Aïcha, il va commencer quand cette lumière a disparu complètement. Ensuite, il dit وَيَسُنُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. Et il est de la sunna de faire précipitamment la prière du Maghreb au début de son temps. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومِ. Conformément au hadith où il a dit ma communauté sera toujours dans le bien, ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils ne reculeront pas la prière du Maghreb jusqu'à ce que les étoiles ne s'entrecroisent, c'est-à-dire quand on voit les étoiles. Ça c'est un hadith qui est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et authentifié par Al-Hakim et par Al-Zahabi. إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. Sauf la nuit de Al-Muzdalifa, pendant le pèlerinage, c'est-à-dire quand les pèlerins ils viennent de Arafa, le 9e jour, ils passent le jour à Arafa. Donc quand vous allez là-bas, il y a Mina, ça, on n'est plus à la Mecque, là, on est proche de la Mecque, il y a Mina, c'est un grand endroit, Muzdalifa et Arafa. Donc le 8e jour tu le passes à Mina, le 9e, donc le matin du 9e tu pars à Arafat, tu restes toute la journée. Quand le coucher du soleil arrive, tu dois partir de Arafat sans faire le Maghrib. La sunna c'est tu fais pas le Maghrib. Tu pars et là cette nuit elle doit se passer à Muzdalifa, donc entre eux, Arafat et Mina, cet endroit sacré qui est Muzdalifa. Et le Maghrib tu dois le prier à Muzdalifa avec l'Aïcha. On appelle ça jam'u ta'khir, c'est-à-dire tu la recules de son temps, puisque tu es considéré comme voyageur. Amma salatu al-isha fa yabda'u waqtuha min maghrib ash-shafaq al-ahmar ila nisf al-layl liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam waqtu salati al-isha ila nisf al-layl al-awsat. Et la prière de l'isha, son temps commence justement quand cette lueur rouge disparaît jusqu'à la moitié de la nuit, conformément au hadith d'Abdullah ibn Omar qu'on a vu. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. Et il est préférable de repousser cette prière, sauf si ça amène une difficulté, une contrainte aux gens. ويكره النوم قبلها. Et il est déconseillé de dormir avant l'Aïcha. والحديث بعدها لغير مصلحة. Et de parler après l'Aïcha, sauf pour quelque chose de bénéfique. لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. Donc comme il a dit un compagnon que le prophète صلى الله عليه وسلم détestait dormir avant l'Aïcha et parler après l'Aïcha. Ça c'est dans les deux sahih. On peut mentionner ici comme faïda, c'est que donc l'Asr on a vu il a deux temps, c'est-à-dire le waqt al-takhir et waqt al-darura. C'est-à-dire par exemple, admettons que tu n'as pas de mosquée à côté de chez toi, et il vient le temps du Asr. Donc là, jusqu'à ce que le soleil jaunisse, tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu peux prier maintenant comme tu peux prier dans 30 minutes, 40 minutes, c'est la même chose. Tu es à l'aise. On appelle ça waqtu ta'khir. Tu choisis quand tu pries entre ça et ça. Quand le soleil jaunit, ça y est. Le temps où tu es entre guillemets à l'aise et tu pries quand tu veux, il s'arrête. C'est encore le temps du Asr, mais tu n'as le droit de repousser l'Asr jusqu'à ce temps-là, c'est-à-dire entre le temps où le soleil jaunit et le Maghrib, que par contrainte. Pour un cas spécial, c'est-à-dire tu as une contrainte, quelque chose qui t'a obligé à repousser la prière. Et en fait, quand on regarde aussi le Maghrib, dans ce sens-là aussi, il a deux temps. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a poussé à la prier tôt, et il nous a dit que la communauté, elle sera dans le bien tant qu'elle ne va pas repousser la prière du Maghreb jusqu'à ce que les étoiles s'entrecroisent. Ça veut dire qu'il est détestable de la prier à ce moment-là. Et aussi l'Aïcha. L'Aïcha aussi, selon la parole de certains ulama, elle a deux temps. Le temps où tu choisis, c'est-à-dire où tu es entre guillemets à l'aise, comme on a dit, waqtu ta'khir, c'est le début de l'Aïcha jusqu'à la moitié de la nuit. Mais de la moitié de la nuit jusqu'au Fajr, c'est aussi un temps pour prier l'Aïcha. si tu as une contrainte ou un cas spécial. Quelle est la preuve? C'est qui me dit la preuve? On l'a déjà vu. Voilà. C'est la parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit que quand la femme elle perd ses règles, c'est-à-dire elle devient pure, en état de pureté, avant le Fajr, qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne se souvient. Elle prie le Maghrib et l'Isha. Ça ne peut être valable que si jusqu'à avant le Fajr, c'est encore un temps pour faire le Maghrib et l'Isha quand tu les regroupes. Donc ça prouve que c'est encore l'heure de l'Isha. Parce que par exemple, si une femme, elle se lave de ses règles avant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle fait le Dhuhr et l'Asr. Parce que c'est encore l'heure du Asr. Donc c'est un temps où, par exemple, si tu étais voyageur, tu pouvais faire le Dhuhr et l'Asr à ce moment-là. Donc lui, il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que si la femme, elle perd ses règles, donc elle devient pure avant le Fajr, pourtant le Fajr, conformément à ce hadith, c'est plus le temps de l'Aïcha. Elle prie quand même l'Aïcha, donc ça prouve que c'est encore l'heure de l'Aïcha, mais c'est l'heure de l'Aïcha pour la contrainte, c'est-à-dire, si tu as une contrainte seulement, tu peux repousser l'Aïcha jusqu'à ce moment-là. C'est à quelle heure ici, l'Aïcha? Hein? Je vois pas là. Ah, ça y est. Ben justement, on va faire l'Aïcha, Inch'Allah. Hein? Ou alors on fait jusqu'à la moitié de la nuit. Bon, on va s'arrêter là. On continuera. Demain, vous avez tous internet ici? Parce que demain, je suis pas sûr de faire cours en fait. Parce qu'on va peut-être se contenter du lundi. Parce que comme j'ai deux cours à Bruxelles dans la semaine, ça fait beaucoup. On va peut-être faire que le lundi. Donc on va se dire à lundi, Inch'Allah. Lundi prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك